Tonight, it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court.
C'est le choix du président, c'est le cas de le dire, Raphaël Jacob. Brett Kavanaugh, qui est celui qui pourrait être désigné chef, le nouveau juge à la Cour suprême, voilà.
Oui, et écoute, il y a eu un tel suspense qui a été bâti dans les jours et surtout même dans les heures qui ont précédé la décision formelle du président. On était, et ça ne te surprendra pas, vraiment dans une ambiance de télé-réalité, là. Et jusqu'à, je te dirais, 20h56, 20h57, hier soir, donc juste avant que le président prenne la parole en direct de la Maison-Blanche, il y a à peu près personne qui savait que ce serait M. Kavanaugh. Évidemment, il faisait partie des finalistes parmi les candidats les plus sérieux, mais on n'avait pas de confirmation pratiquement jusqu'au moment que Donald Trump prenne la parole. Une fois que ça s'est dit, plusieurs points intéressants et importants à mentionner au sujet de Brett Kavanaugh. Le premier, c'est que c'est un juge de longue date qui siégeait depuis 2006 à la Cour d'appel du District de Columbia. Pour expliquer rapidement à ceux et celles qui nous écoutent, il s'agit de la Cour d'appel sans doute la plus prestigieuse aux États-Unis et les cours d'appel, c'est le niveau de cour, le niveau de tribunaux le plus élevé après la Cour suprême. Donc c'est quelqu'un qui clairement a l'expérience nécessaire pour servir à la Cour suprême.
Bon, dans le cheminement de la désignation, ouais. Autrement dit, il n'a pas sauté, c'est pas quelqu'un qui passe d'un juge de première instance ou un procureur quelconque que l'on nomme comme juge de la Cour suprême. Il suit le parcours habituel, là.
Exactement, et je te dirais que tous les derniers juges et toutes les dernières juges à avoir été confirmés à la Cour suprême étaient également des juges de cour d'appel. Donc ça s'inscrit, je te dirais, dans la continuation. Où Kavanaugh est par contre assez différent de la plupart des derniers juges qu'on a eus, c'est qu'il est politique, ou tout au moins il a déjà été politique. Il a servi au sein de l'administration Bush et il a également servi au sein du cabinet de Kenneth Starr, l'enquêteur spécial qui avait enquêté, on s'en rappelle, sur le président Clinton dans les années 90. Donc, tu as ça aussi comme dynamique. Et je dois le mentionner sur une note plus personnelle, le type a une réputation, évidemment, il vient d'être nommé à la Cour suprême, ça va pas surprendre qui que ce soit, mais a une réputation particulièrement marquée au niveau de sa brillance, de son intelligence. Je peux même te dire rapidement que j'ai un collègue aux États-Unis qui a servi avec Brett Kavanaugh au sein d'une firme privée à la fin des années 90. Et à ce jour, il dit que c'est un des êtres humains les plus intelligents qu'il a rencontré de sa vie et qu'il est particulièrement doué pour ce qui est d'écrire des décisions judiciaires et pour ce qui est également de convaincre des collègues, ce qui est une qualité, une force particulièrement importante au sein d'un organisme comme la Cour suprême. Autrement dit, le type est qualifié. Évidemment, idéologiquement, si vous êtes à droite, vous allez l'aimer. Si vous êtes à gauche, vous n'allez pas l'aimer.
Je veux juste préciser, Raphaël, parce que on a dit beaucoup de choses, puis on a parlé hier même, tu faisais référence de faire attention, entre autres, sur l'histoire de l'avortement.
Oui.
On a parlé de l'ancien juge Kennedy qui a démissionné, qui lui pouvait aussi avoir des positions assez dichotomiques, là. Entre autres, il a défendu des droits pour les homosexuels, mais il y avait d'autres choses sur lesquelles il était très, très, très tranché et conservateur. Il situe où, Brett Kavanaugh?
Il faudra voir. De ce qu'on en comprend, aujourd'hui, il se situerait clairement dans le bloc conservateur de la Cour, beaucoup plus à droite que justement le juge Kennedy qui pouvait être assez hétérodoxe. Une fois que ça s'est dit, ça serait pas la première fois si Kavanaugh, je dirais, modérait ses opinions une fois qu'il est à la Cour, qu'on aurait justement un juge ou une juge qui évolue au fil du temps. Ça, tu as vu ça à plusieurs reprises au courant de l'histoire américaine récente. Donc, pour l'instant, je te dirais que le type semble clairement s'aligner avec le bloc conservateur, le bloc de droit de la Cour, mais il faudra voir une fois qu'il est confirmé, à quoi ressemblent vraiment ses décisions. Mais je te dirais qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment vers ça qu'on semble se diriger. Et justement, en parlant du processus de confirmation, ben là, écoute, on tombe dans la bataille au Sénat dès aujourd'hui.
Ouais.
Et là, on s'en parlait toi et moi, hier aussi, du fait que tu as deux sénatrices républicaines qu'on va suivre particulièrement de près, Mme Murkowski de l'Alaska et Mme Collins du Maine. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment elles qui risquent de faire la différence. Si elles appuient M. Kavanaugh, sa confirmation est pratiquement garantie. Sinon, elles risquent d'être en sérieux péril. Et je te dis quelque chose que je ne t'ai pas dit hier, mais c'est important de le mentionner. C'est extraordinairement rare de voir des sénateurs ou des sénatrices opposer un juge nommé par un président de leur parti. En fait, au courant des 30 dernières années, je vérifiais ça tantôt, c'est arrivé une seule fois. Tu as eu un sénateur en 2006, un sénateur républicain qui avait opposé la nomination du deuxième juge nommé à la Cour suprême par le président Bush, évidemment un président républicain. C'est le seul sénateur qui s'est opposé à une nomination judiciaire de son parti, que ce soit un démocrate ou un républicain, depuis plus de 30 ans. Autrement dit, ça prendrait quelque chose de renversant pour que Mme Collins ou Mme Murkowski s'oppose à M. Kavanaugh. Donc, sa nomination, encore une fois, nonobstant des révélations ou des bourdes majeures pendant le processus de confirmation, normalement devrait aller de l'avant.
Là, j'ai hâte de voir parce que je lisais ce matin un éditorial du New York Times qui posait quelques questions en disant si on voulait savoir où campe réellement le juge, il devrait y avoir quand même sur des cas de jurisprudence sur lesquels il se prononce, donc on saurait réellement à qui on a affaire aussi. Et on dit pour éviter des cas passés, pour éviter le cas de John Paul Stevens, entre autres, qui a siégé jusqu'à 90 ans à la Cour suprême, pourquoi on ne fait pas des mandats de 18 ans tout au plus?
C'est une question qui se pose. Je dirais que les démocrates qui sont frustrés présentement de voir un deuxième juge conservateur nommé par Donald Trump en moins de 18 mois ont également évoqué la possibilité, lorsqu'il reprendrait le contrôle de la Maison-Blanche et du Congrès, d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême. Donc, évidemment, pour diluer ou peut-être même éliminer la majorité conservatrice. Donc, ce sont des questions qui sont posées. Est-ce que ça va vraiment donner comme résultat un changement de règles? Écoute, il faudra voir.
Merci beaucoup, Raphaël.
À demain.
Salut bien, à demain. Il est 8h18.